Tu lis quoi, toi? Vous lisez quoi, vous? Nous lisons quoi, nous?
Me demande qui je suis. Je suis son secret inquiet, profond et noir. Je suis son silence entêté. J'ai voilé mon être de silence et cousu mon cœur de doute. Et je suis resté ici, la mine grave, à scruter et les siècles me demandent qui suis-je. Le vent me demande qui je suis. Je suis son esprit. Je suis comme lui, sans feu ni lieu, toujours avançant sans fin, toujours de passage interminablement. Et si nous touchons à une côte, l'imaginant le terme de nos épreuves, elle nous découvre une vaste plaine. Le temps me demande qui je suis. Je suis comme lui un colosse qui réduit les époques et leur accorde à nouveau de revivre. Je crée le passé lointain, d'un enchantement de l'espoir insouciant, et c'est moi qui à nouveau l'enterre pour me forger un naguère nouveau dont le demain sera à toute épreuve. Ce poème est tiré du recueil « La nuit en poésie » publié chez Folio Junior, une anthologie de Sylvie Germain. Et c'était l'occasion pour nous de saluer le travail de Gallimard autour de Gallimard Jeunesse, évidemment, autour de la poésie. C'est un poème de Nazik al-Malaïka, qui était une poétesse irakienne, pionnière de l'écriture en vers libre en poésie arabe. Et dans la petite intro, ils disent que son œuvre, qui mêle réalisme et mysticisme, traite du tragique de la condition humaine, particulièrement celle des femmes dans les sociétés arabes. Voilà, c'était l'occasion de lui rendre hommage. Vous écoutez On lit quoi nous, la 59e émission de littérature de jeunesse. Je suis avec Véro, bonjour Véro.
Monsieur Simon, bonjour.
Je suis également avec Lola, bonjour Lola.
Bonjour.
Et nous allons vous parler de littérature jeunesse, toute cette heure qui nous est offerte par l'autre radio. Il sera évidemment question d'albums pour les tout-petits, d'albums pour les plus grands, de romans, de documentaires, de bandes dessinées, de romans ados. Ça va être génial.
Oui,
ça va être très bien. Vous êtes prête?
Oui, prête.
Bon, super. On commence comme d'habitude, toujours en musique, en douceur. Et cette fois-ci, j'ai décidé de revenir dans le passé. Imaginez-vous, nous sommes 19 ans plus tôt, en 2005. Et c'était la première compile de Transistor qui sortait.
Ah, voilà. Si vieux que ça.
Et, ouais. Et qu'est-ce qu'on écoutait en 2005 à Laval? Et bien, par exemple, on écoutait Monarica avec Dans mon hamac. On écoute ça et puis on en parle tout de suite après.
Avec la classe, je ne me lève que pour quelques fruits, une bouteille de mescal, une envie, seul comme le dernier des chercheurs d'or, au milieu de nulle part, je m'endors. Non, je ne suis pas mou, je rêve un peu, c'est tout, mais non, je ne suis pas fou, je rêve un peu, c'est tout. Je regarde s'écouler la vie. Le vent glisse entre mes orteils, me chuchote des histoires à l'oreille. Le vieux Harry me rend visite, échange de cigares, revue érotique, parce qu'à part de vieux rêveurs, ici rien à se mettre sous le cœur. Non, je ne suis pas mou. Je rêve un peu, c'est tout, mais non, je ne suis pas fou. Je rêve un peu, c'est tout, mais non, je ne suis pas mou. Je rêve un peu, c'est tout, mais non, je ne suis pas fou. Je rêve un peu, c'est tout.
C'était Dans mon hamac de Mona Rica. On est bien, hein, on est tranquille.
Oui, on est cool.
On pourrait être à la plage et tout ça. Alors à l'époque, effectivement, Mona Rica, c'était un groupe qui avait été fondé notamment par Florian Mona. C'était Cat Lavallois qui faisait une sorte de chanson cool. Mm-hmm. C'était vraiment ça. On pouvait l'écouter avec les tongs, les pieds dans l'eau. C'était vraiment très bien, très inspiré de la musique américaine de Neil Young ou Bob Dylan. Mm-hmm. Et c'était vraiment un super beau moment. C'est un groupe qui n'existe plus actuellement, mais qui nous a bien fait rêver avec l'album Notre Arizona. On continuera comme ça tout au long de l'émission à écouter des...
Transistor 2005.
Ouais, des groupes assez anciens. Ça m'a fait plaisir. Oui, j'avais l'esprit nostalgique en préparant cette émission. Allez, on va s'attaquer tout de suite évidemment à l'actualité.
Rature de la jeunesse.
Toujours aussi beau slogan, n'est-ce pas? Pour nous parler, attention, lancement. Eh oui, on a sorti les trompettes parce qu'il fallait au moins ça.
Oui.
Au début, on aurait cru que c'était Star Wars un peu. Non, ce n'est pas du tout Star Wars. C'est,
avec
ce
Dark sont... Vador qui arrive et
voilà.
Tout.
Non, pas du tout. Ce sont les prix sorcières qui ont été révélés il y a une semaine. Et franchement, on est content.
The winners are...
Bah, the winners are tous les livres qu'on avait présentés quand même. Donc ça, c'est un peu la classe. Hein, je veux dire.
Ouais. Ah ouais,
on peut être fier parce que les 6 vainqueurs, on les a présentés dans cette émission. Donc voilà. Donc je rappelle les titres pour ceux qui n'ont pas vu. Mais alors c'est vraiment une occasion de se replonger dans ces textes, dans ces albums, dans ces romans, parce que ce sont 6 coups de cœur qu'on a eu tout au long de l'année précédente. Donc voilà. Pour les petits, c'était Chez Bergamote de Junko Nakamura.
Oui,
c'est vous, Véro, qui l'avez présenté aux éditions Memo. Et c'est un très, très bel album.
Il donne chaud. C'est un album qui donne
chaud. C'est un album cocon. Ouais. Voilà. Dans les albums un petit peu plus grands, c'était Le Jardin de Baba de Jordan Scott, illustré par Sidney Smith, qui a remporté chez Didier Jeunesse. Pareil, ça, c'est un album qui est hyper beau sur la transmission. Le rapport d'un petit garçon et sa grand-mère, c'est très, très, très beau, très juste. Et puis le dessin de Sidney Smith qui est magnifique. Après, dans les romans, le roman pour les plus jeunes qui a gagné, c'est Monstre de Stéphane Servant, illustré par Nicolas Zouliamis. Vous vous souvenez, c'était le petit roman en noir et blanc, un poil flippant quand même, qui inverse les rôles entre le jeune garçon qui voit arriver un cirque et les monstres. Qui est le monstre, ça on verra bien. C'est un très très beau texte chez Thierry Magnier. Chez les grands, le roman ado, c'est Nous traversons des orages de Anne-Laure Bondoux. C'est un peu le roman de l'année, hein. Il a tout gagné cette année. Hein. Il est magnifique, c'est vraiment un ouvrage évidemment qui est accessible aux ados, mais qui est accessible à tout le monde. Il serait sorti en littérature générale, c'est évidemment qu'il aurait eu un succès énorme, mais c'est bien qu'il soit sorti chez les ados. Et Anne-Laure Bondoux, on aime quand elle écrit pour les ados, parce que c'est vraiment toujours aussi bien. Et puis les deux catégories un petit peu particulières, les deux albums un peu différents. Il y a Nuit de chance de Sarah Chevaux aux éditions La Partie. Véro, c'est vous aussi qui l'avez présenté.
Une richesse inouïe.
Oui, et puis toujours avec cette surprise à la fin, quand
cette
on découvre...
C'est une richesse, il y a des richesses dedans, c'est une malle au trésor, ce livre.
C'est ouais. Ça, c'est ça. Et puis pour les en non-fiction, c'est L'Imagier de Émilie Chazeran.
Que vous aviez présenté.
Voilà, illustré par Anavanda Goguzet et aux éditions La Ville Brûle. Ça récompense aussi un éditeur qu'on aime bien ici, La Ville Brûle. Ouais. Enfin, il n'y a que des éditeurs qu'on aime bien. Donc franchement, ce sont de très très beaux prix sorcières. Bravo les libraires, bravo les bibliothécaires. Vous avez très très bien voté. Je voulais rajouter dans l'actualité de la littérature jeunesse une sortie en fait de 3 livres un petit peu théoriques qui me semblent intéressants à mettre en avant. Ces 3 livres ont été publiés dont on apprécie le travail et le militantisme. Cet éditeur, c'est On ne compte pas pour du beurre, qui est un éditeur vraiment spécialisé dans la défense des droits LGBT, dans la différence voilà, oui. En général.
Il est dans l'Est, non ? Ou si je me trompe ?
Je crois, oui.
C'est pas vers Strasbourg ou quelque chose comme ça.
Je ne sais pas. Vous me piégez. En tout cas, il vient de sortir 3 essais, et ces essais traitent de l'invisibilité de certaines communautés dans la littérature de jeunesse. Ce sont vraiment des essais universitaires qui ont été créés par des spécialistes du genre. Donc il y a un essai qui va traiter des personnages LGBT, qu'en est-il dans la littérature jeunesse, quelle est la représentation et la question du genre aussi de manière un peu plus générale. Donc là il y a tout un tas de livres qui sont listés qui sont présentés et qui permettent de présenter l'importance d'une diversité de représentation et puis pourquoi aussi ils sont absents et quelles conséquences ça a par rapport à l'identification grâce à l'album jeunesse. Il y en a un deuxième, c'est Priscille Cross qui a travaillé sur les stéréotypes sexistes. Où est-ce qu'on en est des années après avoir dénoncé des représentations très sexistes notamment de la femme dans l'album Jeunesse. On pense très fort à toi.
Il y a du boulot encore à faire.
Petit ours brun, on pense à toi.
Oui, voilà. Et à ta maman.
L'image de la mère qui ne travaille pas, qui s'occupe que de l'enfant, qui fait les tâches ménagères pendant que le papa fume sa pipe dans le fauteuil.
Et son journal.
Donc qu'en est-il aujourd'hui ? Eh bien là, Priscille Cross a analysé plus de 200 albums des années 70 jusqu'à maintenant et elle en a dégagé des tendances un petit peu et elle fait un point pour nous indiquer où est-ce qu'on en est, et je pense qu'il y a encore un peu de travail. Et puis le dernier essai, c'est Sarah Guélam qui a travaillé sur cet essai et qui travaille sur la représentation des enfants non blancs dans la littérature de jeunesse. Quelle est sa part aujourd'hui ? Très minime encore aujourd'hui. Donc là, elle analyse plus de 400 albums où sont décrits un peu où elle numère les enfants racisés qui vont être présentés. C'est passionnant, c'est intéressant, c'est interrogant évidemment. C'est aussi représentatif de quelque chose dans notre société. En tout cas, c'est 3 essais qui sont passionnants à lire. C'est des vrais essais universitaires. Donc
des essais sociologiques, quelque part.
Ouais, complètement.
Des changements en cours. Quoi.
Donc, c'est une lecture quand même exigeante, je pense, vraiment pour les professionnels, mais en tout cas ceux qui s'intéressent vraiment à ces sujets-là.
Gens qui militent aussi, ça peut être
exactement.
Intéressant.
Exactement. Ouais. Et c'était très bien qu'on fasse ça. Et c'est a priori le début d'une collection qui s'appelle J'aimerais t'y voir, donc qui va travailler justement sur les invisibilités.
C'est beau.
C'est
beau.
Un très beau titre.
Ah, le nom
un
de la collection. Wow.
Non, mais tout est beau dans ces petits essais. Donc, je vous conseille vraiment leur lecture. Allez, on s'attaque au livre, nous aussi. On va parler de représentation. Et c'est vous, Lola, qui commencez avec 2 petits albums.
Oui. Donc, je vais vous parler de Super Potes, qui est un roman pour les plus jeunes, qui a été écrit par Smriti.
Je ne sais pas le dire non plus. Je vous laisse avec ça.
Je suis désolée. Smriti.
Et illustré par Steve Small. Donc, c'est aux éditions Sarba Bébé. Donc, dans la première partie de l'histoire, on commence du point de vue de Ours qui, va vanter les louanges de son amitié avec Écureuil. Donc, ce qu'il pourrait dire, c'est des phrases du style « On est toujours ensemble, on fait tout ensemble parce qu'on se complète, même quand tout va mal ». Sauf que finalement, tout va vraiment mal au bout d'un moment. Et donc c'est là que Écureuil va se mettre en colère et demander à Ours de le laisser respirer. Donc ici, on va passer à la deuxième partie de l'histoire où on sera du point de vue d'Écureuil qui va profiter de sa tranquillité. Sauf que qui dit tranquille dit aussi seul. Et donc Écureuil va rapidement sentir la solitude l'envahir. En particulier quand il va retrouver la tasse de Ours dans son sac. Et donc
On verse notre petite larme à ce moment-là.
En plus, il y a un petit cœur sur la tasse. C'est mignon. Et donc, il va courir retrouver Ours. Et ensemble, ils vont finir par trouver des solutions. Parce que, ensemble, finalement, ils se complètent. Donc, c'est une œuvre que j'ai trouvée vraiment très belle. Ça parle de l'amitié. Qui fait un peu penser à celle de 10 ours Tudor, j'ai trouvé, aussi dans les dessins. Donc Superpot nous montre que même au sein d'une amitié fusionnelle, chacun a besoin de se retrouver soi-même à un moment. Mais que ça ne veut pas dire qu'on abandonne l'autre pour autant.
C'est un très très bel album pour les tout petits, alors qui était déjà sorti en un peu plus grand chez Sarbacane. Et il faut savoir que Smitty Halls et Steve Small, ils ont travaillé sur... C'est une série en fait, Superpot, et ils ont plusieurs volumes qui sont sortis. Je crois qu'il y en a 4 qui existent chez Sarbacane. Et ça, c'est le premier qu'ils avaient fait, qui sort effectivement donc, dans la collection Sarbabébé, donc plus petit, cartonné.
Oui.
Ce qui permet de toucher un public plus jeune. C'est vraiment très attendrissant. Vous en aviez un deuxième dans la même collection, je crois.
Oui, exactement dans la même collection. C'est l'histoire d'un éléphant. Donc cette fois, c'est écrit par Agnès de Lestrade et illustré par Guillaume Plantevin. Donc ici, c'est l'histoire d'un éléphant qui est énervé parce qu'il a mal dormi. Et finalement, c'est surtout l'histoire de répétition et d'effet papillon. Parce que l'éléphant est énervé dès le début de l'histoire et sa mauvaise humeur va finalement contaminer les autres animaux jusqu'à le réénerver le lendemain. Donc cette histoire peut se lire sans fin puisque tout simplement c'est une boucle infernale, mais qui manque pas d'humour bien sûr. Donc c'est un livre qui est aussi amusant pour les enfants que pour celui qui le lit, si c'est plus pour celui qui le lit presque.
C'est important.
Oui.
Souvent, il transmet sa bonne humeur à l'enfant, donc c'est très important.
Oui, c'est ça.
Surtout si l'éléphant est de mauvaise humeur.
Ouais. Comme vous, un peu, non?
Oh non, moi, ça va.
Ah non, vous êtes de bonne humeur.
Non, mais
ah,
ça va très bien.
Bon, d'accord. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas de mauvaise humeur?
Certaine.
D'accord.
Mais ça peut changer.
D'accord. On verra ça tout au long de l'émission. Je testerai.
Mais c'est vrai que ça aussi, c'est une...
C'était un album qui était déjà sorti en plus grand format et il ressort dans la collection de Sarbabébé. En fait, comme ils ont créé cette nouvelle collection chez Sarbacane, il y aura des vraies créations et il y aura des passages donc, dans ce format cartonné de grands classiques en fait, de leur fond. Et c'est très bien parce que c'est vraiment des albums qui sont complètement adaptés à la petite enfance pour les enfants à partir de 2-3 ans.
Oui.
Et qui, effectivement, avec le rythme de l'histoire...
C'est une histoire en randonnée, comme ça.
C'est vraiment un vrai rythme.
Et Agnès Lestrade, pour moi, c'est reste une super plus grande autrice de la littérature jeunesse.
Allez. C'est bien.
C'est vrai.
C'est un beau mot de la fin. En tout cas, c'est vraiment un très bel album. Véro, vous aviez
j'ai un adorable livre cartonné, tout simple. Qui mange quoi? De Eurydice Da Silva et de Elsa Mroziewicz. Et on est chez Mine Édition, en Suisse. Peut-être un petit peu... Non, elle n'est plus en Suisse. Elle n'a jamais été. Si, elle est... Bon, c'est pas grave.
Non, je crois pas.
Enfin, bon, francophone, hein, ça c'est sûr. Il y a du français dedans. C'est écrit
oui.
en français.
Oui, c'est français.
Promis. Et donc, ce livre-là, donc, c'est... il n'y a pas vraiment d'histoire, mais on découvre à chaque double page ce que mange chaque animal. Et c'est très, très bien foutu comme animation, puisque la bouche, la gueule, le bec, enfin tout ce que vous voulez, de chaque animal se referme sur l'aliment qui correspond à son code alimentaire. Hein. C'est pas mélangé. On voit les grains de maïs qui disparaissent dans le gosier de la poule. Et l'animal mange vraiment. Il y a la tortue, la salade, le serpent, des œufs, l'oiseau, des vers de terre. On voit la salade disparaître. Bah, comme, voilà, la mouche de la grenouille aussi. Donc, c'est. Alors, en plus, il y a une illustration donc, de Elsa. Je recommence, hein, j'aime bien. Mroziewicz, voilà, qui est vraiment adorable, qui est charmante, qui est colorée, qui est joyeuse. On parlait de motifs hier, c'est vrai, sur répétitif, mais c'est vraiment chouette, c'est vraiment sympa. C'est un joli petit livre qui met vraiment de super humeur, justement.
C'est vrai. Les motifs font penser un peu, soit à des motifs tribaux, un peu africains, ou même d'autres... Enfin, c'est vraiment très beau, quoi. Et effectivement, l'animation est vraiment jolie, parce que la bouche vient en volume, un peu comme un pop-up.
Voilà. Elle peut même, vous dirait qu'elle fait un bisou aussi.
Et quand on ouvre complètement le livre, elle se referme
sur l'aliment. Non, quand on l'ouvre complètement, voilà, c'est ça.
Mais c'est un petit jeu avec les enfants. Alors,
oui, on peut même mettre le doigt aussi, voilà.
Aïe.
Et ça fait pas très très mal.
Ah si, ça fait mal.
Pas très très.
Une grenouille comme ça qui.
Ouais, mais elle a pas de dents les grenouilles, ça pas de dents.
Ça fait mal quand même. Vous avez jamais fait pincer par une grenouille?
Non.
Bah voilà.
Mais moi, je sais pas, un vrai petit coup de cœur pour ce livre extrêmement bien réussi.
Et j'irai
voir en Suisse.
Qui mange quoi?
Non, c'est à Paris.
C'est pas du tout en Suisse. Je sais pas pourquoi vous avez voulu.
Je ne sais pas.
Non, cet éditeur n'est pas suisse, s'il vous plaît.
Pourquoi je... Mais depuis 20 ans, je croyais que mes éditions...
La joie de lire est en Suisse.
Oui, Nord-Sud, mais je mélangeais, il y avait... Des... Non, je ne sais pas.
Nord-Sud, ils sont d'origine allemande un peu plus. Mais pas suisse du tout. Mais bon, peut-être la Suisse allemande, je ne sais pas. Allez, vous aviez un deuxième coup de cœur qui n'est pas complètement pour les tout-petits, qui est pour les petits et les plus grands.
C'est quoi cet instrument, dis donc, de Ole et Hans Könneke?
Il n'y a pas dis donc, c'est, le titre c'est quoi,
ah mais non,
cet
mais non, c'est quoi cet instrument, tout court? Mais chez...
Il n'y a pas tout court.
Je sens que ça va être long aujourd'hui. Ça va être très long. Donc, on est chez l'École des loisirs, voilà, voilà. C'est un documentaire très ludique. Pareil, des doubles pages avec une super illustration de l'illustratrice. Je ne sais pas de qui Ole ou de Hans a dessiné. Je crois que c'est Ole.
C'est Ole. Parce que c'est lui qui fait les albums à l'École des loisirs qu'on connaît habituellement.
C'est un garçon, Ole.
Oui.
Et Hans aussi.
Oui.
Oui, moi tout va bien. Alors, on découvre 52 instruments. Des très connus et des beaucoup moins connus, comme le dulcimer qui est joué par les immigrants européens en Amérique du Nord, ou le glockenspiel, une sorte de xylophone avec... Ah bah voilà, bah monsieur Simon, il connaît le glockenspiel.
Ah, le glockenspiel.
Je me la pète.
Pardon. Je connaissais mais je ne connaissais pas le premier.
Pardon. Et donc voilà, c'est avec des lamelles en acier, le glockenspiel. Pile une sorte de xylophone. Donc, chaque instrument est présenté avec un petit texte donc, qui donne son origine. Le texte est assez court. Franchement, on est dans un documentaire qui s'apparente à un album, hein, de toute façon, parce que l'illustration a une place très, très importante. Et on précise donc, son origine, son fonctionnement. L'illustration, pareil, est très, très joyeuse, hein, très chouette, très colorée. Et un QR code à chaque bas de page. Et j'ai scanné, j'ai pas scanné les 52, mais c'est un vrai bonheur parce qu'on retrouve la page. C'est ça que je trouve intéressant. Bon, vous allez me dire, ah, encore des écrans, ta 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 ta. Mais quand même, là, les écrans, ils sont chouettes, ils viennent compléter le livre. Et surtout, il y a du son, et il y a le son de l'instrument. Avec un, c'est pas un son comme ça, bête et méchant, c'est un petit morceau, soit de Mozart, soit de plein de compositeurs. Et on y est vraiment. On a vraiment une initiation très brève, mais très efficace au monde des instruments de musique. Et peut-être qu'on espère qu'un enfant dise « ça, je veux jouer de ça ».
Peut-être.
Voilà.
Peut-être, qui sait.
Du glockenspiel.
Du glockenspiel. Alors, pas facile quand même à trouver. Et puis à dire le nom. Je veux jouer au...
Bah après, c'est comme ça qu'on finit au piano, quoi.
Voilà ça. Ouais, va faire du piano, ça sera plus. Ben, vous savez quoi ? De la musique. Je veux dire, une fois qu'on a fait de la musique, qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, on danse.
Ah, c'est beau.
Ah, quel enchaînement. Il était travaillé, celui-là. Et oui, ce petit fond de Stromae, parce qu'on va parler d'un album absolument génial qui sort pour les tout-petits, mais aussi pour les plus grands. Ça s'appelle « Aujourd'hui, on danse et demain, on recommence ». C'est écrit par Marie Poirier. Alors, il faut savoir que Marie Poirier, c'est une autrice, évidemment, une illustratrice. Elle avait fait notamment le très bel album « La danse de Doris », publié aux éditions Les Grandes Personnes, qui était génial. Où on pouvait déjà sentir, en fait, qu'il y avait un lien entre la danse et l'illustration chez elle. Eh bien, Marie Poirier, elle est autrice-illustratrice, mais elle est aussi danseuse. Et elle pratique, en fait, la danse. Elle enseigne la danse contemporaine. Et donc, le travail du corps est aussi important pour elle que le travail de l'esprit. Et cet album, en fait, il propose justement d'allier les deux pour les plus jeunes. En gros, elle a dessiné des phrases musicales, des phrases de danse qui sont représentées par des symboles assez simples pour que les enfants peuvent vraiment s'accaparer facilement. Le soleil, les vagues, le pont, le rocher, l'arbre, le vent, le nuage. Et chacun de ces dessins représente en fait un langage de la danse. C'est-à-dire que... Un langage du corps, exactement. Donc c'est très bien expliqué sur le dos du livre. Une phrase, voilà, c'est ça le mot. Parce qu'on dit aussi la phrase dans la danse. C'est-à-dire que quand, par exemple, il y a le pont... il faut créer un pont avec tout le corps, regard vers le sol. Donc on crée un pont, l'enfant se met au sol et il crée un petit pont. Quand il y a le rocher, il faut se replier sur soi dans un cocon et imaginer qu'on crée une empreinte dans le sol avec le poids du corps. Et comme ça, elle donne des petites pistes qui correspondent à chaque image. Et puis, au fur et à mesure de l'album, qui est un grand album en accordéon qui va se déplier, on va voir les signes, les phrases qu'elle a mises en dessin apparaître. Et donc l'enfant va devoir danser ce qu'il a appris par rapport aux différentes représentations. Ce qui fait que l'enfant va se promener dans un parcours dansé tout en regardant l'album. Et je trouve que c'est magnifique parce que comme en plus un livre accordéon, on peut le déplier, on peut le prendre un peu dans n'importe quel sens. Et donc on peut s'amuser avec pour créer un peu des nouvelles chorégraphies dansées. Je trouvais l'idée géniale. Franchement, j'ai trouvé que c'était ultra intelligent.
Et ça peut se faire à plusieurs, en
ça
plus.
Peut se faire à plusieurs.
C'est décoré,
ça peut se,
quoi,
ça carrément. Peut se faire à un adulte, un enfant. Et ça peut se faire à une classe avec un instit. Enfin, je crois que c'est complètement libre de l'adapter comme on veut. Mais j'ai trouvé ça vraiment très judicieux, beau graphiquement. Et puis, c'est une première fois que je vois un livre sur la danse qui fait danser, quoi. Donc, donc l'idée est géniale. Et franchement, j'espère que c'est un livre qui va trouver son public, qui va être montré à la fois dans les écoles. Moi, je pense évidemment à tous les instits d'école maternelle qui font de la motricité.
Un beau spectacle de fin d'année.
Ça ferait de très, très beaux spectacles de fin d'année, effectivement, avec la pluie, le bateau, le ballon. Ben, après, on peut imaginer tout ce qu'on veut. Et puis, j'imagine qu'on peut imaginer d'autres chorégraphies en entremêlant les différents personnages autrement que la proposition que nous fait Marie Poirier. Évidemment, on peut créer d'autres histoires et d'autres chorégraphies.
Les grandes personnes.
Et ouais, les grandes personnes, évidemment. Donc, ce livre s'appelle « Aujourd'hui, on danse et demain, on recommence ». C'est écrit, illustré et dansé par Marie Poirier et c'est publié effectivement aux grandes personnes. Allez, on passe au un peu plus grand, des albums pour les un petit peu plus âgés. Lola, vous aviez un petit coup de cœur, je crois.
Oui, donc j'ai eu un petit coup de cœur pour l'album « La robe dans la vitrine » qui a été écrit par Robert Tregoning et Pippa Koernick. Et donc c'est aux éditions Gauthier Landreau. Donc là, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Léo et qui va tomber sous le charme d'une robe qu'il va voir dans la vitrine d'une friperie. Donc il le sait, il veut cette robe. Donc sa mère lui dit que s'il veut vraiment la robe, il va falloir qu'il travaille pour la payer avec ses sous. Et donc Léo va se mettre à promener des chiens, à porter les courses de ses voisins ou même à nettoyer leur jardin. Et le jour de son anniversaire, il est tout content puisqu'il a réussi à ramasser tout l'argent qu'il lui fallait pour acheter la robe. Sauf qu'il va passer devant et la robe ne sera plus là. Donc là, pour le coup, il est vraiment dévasté. Et donc le soir même, c'est son anniversaire. Et donc au moment où il ouvre le cadeau de sa mère, qu'est-ce qu'il va découvrir ? La fameuse robe qu'il voyait dans les vitrines.
Vous avez fait peur quand même. Mais moi, j'étais comme ça tendu là.
Et donc,
en plus, il peut garder ses sous, j'ai bien compris.
Il a tout gagné.
La fille, c'est justement le principe. Bah, c'est ce que lui dit sa mère, justement, en lui offrant la robe, c'est que il a bien travaillé. Enfin, il a
tout gagné.
Il a mérité.
C'est ça. Il a mérité. C'est exactement ça. Et donc, ça explique que parfois, il est nécessaire de se donner les moyens, en fait, pour avoir ce qu'on veut. Et voilà, il est doublement récompensé. Et donc j'ai apprécié dans cette histoire le fait qu'on déconstruise les stéréotypes du genre et que via le personnage de Léo, on apprend à s'affirmer et à oser finalement. Donc c'est une très belle histoire où il n'y a pas de tabou et les couleurs sont aussi claires et joyeuses que l'histoire à l'intérieur.
Je suis complètement d'accord. C'est un livre qui est à la fois simple, qui n'est pas prétentieux, qui n'est pas moraliste et tout, mais qui permet d'aborder le sujet d'une manière hyper légère.
C'est exactement ça.
Et c'est ça qui est vraiment très, 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 très chouette. Moi, ça m'a fait penser, alors pas du tout dans l'illustration ni dans le texte, mais il y avait un album chez Glénat qui s'appelait Princesse Kevin, qui était un peu cet esprit-là, je trouve, où les enfants sont complètement décomplexés. Il a envie de mettre une robe, c'est très, très bien, quoi. Kevin, il a envie de se déguiser en princesse, il se déguise en princesse. Il y a aussi Juliane, le petit.
Au mariage.
Juliane au mariage, voilà.
Ou Juliane la sirène.
Ou Juliane la sirène. Je trouve que c'est des albums qui sont très beaux parce que justement, ils sont décomplexés par rapport à ça, s'ils pouvaient faire avancer un petit peu les...
Oui, puis c'est montré de manière très naturelle.
Complètement. Un très très bel album, je suis bien d'accord. Moi aussi, j'ai un petit coup de cœur sur un album qui s'appelle Drôle de questions. C'est un album publié aux éditions Les Arènes Jeunesse. C'est un livre qui a été écrit par Mac Barnett. Alors Mac Barnett, on le présente plus, c'est quelqu'un qui est un écrivain génial. En fait, c'est notamment lui qui a écrit avec John Classen toute une partie de sa série. C'est lui qui a fait les trois books, Bourru, lui qui a fait la trilogie des formes, le carré, rectangle et tout aussi. Alors, les chapeaux, non, ça c'est John Classen tout seul. Donc c'est un écrivain américain qui écrit vraiment des super albums. Et l'illustration, là, c'est Christian Robinson. Et Christian Robinson, c'est aussi un illustrateur, moi, que j'aime beaucoup, qui a reçu plusieurs prix aux États-Unis et qui, notamment, a un travail très important aux États-Unis puisqu'il représente quasiment que des personnes de la communauté noire. Donc il participe justement, on en parlait dans l'introduction avec le livre de On ne compte pas pour du beurre. Voilà, le livre de Christian Robinson met en scène souvent des personnages non blancs. Et ça, c'est vraiment très très bien. Cet album-là, c'est pas du tout ça. C'est un album qui va poser des questions. Le titre s'appelle Drôle de questions. Et ces questions, elles sont absolument pas fermées. C'est-à-dire que à chaque fois, on pense qu'on va avoir une solution, que ça va être un cherche-trou, que l'enfant va devoir trouver la réponse, mais pas forcément. Par exemple, on voit une image où il y a une policière qui passe, une policière déjà, pas un policier, et puis six femmes qui marchent, six femmes normales, qui n'ont rien de particulier. Et la question, c'est laquelle de ces femmes vient de voler une banque ? Et il n'y a absolument rien dans l'image qui permet de le dire. Donc ça va laisser parler les enfants. Pourquoi elle dit ça ? Pourquoi c'est un peu philosophique. Complètement déstabilisant. Par exemple, on a un éléphant, il est près de la mer, il a un château de sable, et il y a marqué « Pourquoi l'éléphant est-il furieux ?» Effectivement, il n'a pas l'air...
C'est comme si on disait des pistes de scénario.
C'est ça.
Et puis hop,
C'est là, vrai que ça interpelle.
Ah ouais, là j'ai un enfant, il a une amie tortue qui est en fauteuil roulant, ou en petite carriole, je ne sais pas, et une autruche. Qu'est-ce que l'enfant cache derrière son dos ? Ça n'a rien à voir avec l'image. C'est génial, je trouve, parce qu'il y a toujours un petit moment de... Un peu comme on a eu là, un petit moment de silence. Ah, oui. Et puis,
on a envie de chercher.
Ah oui, mais on n'a pas la réponse dans l'image. C'est ça qui est super. La réponse, c'est l'enfant qui va l'inventer.
Oui,
mais
on a envie de chercher dans sa tête.
Ah oui, tout à fait. Je trouve ça génial. Enfin, je trouve ça hyper bien fait. C'est vraiment un livre qui va, je pense, laisser perplexe plus d'un parent. Les enfants, je pense qu'ils vont, aller, il n'y a pas de problème. Mais j'imagine déjà les parents à côté qui vont lire l'histoire, qui vont dire « Qu'est-ce que c'est que ce livre ? Il n'y a pas les réponses. »
Je le ramène à la librairie.
Voilà. En tout cas, moi, j'aime bien ces livres-là. Donc il faut parler de... Drôle de question, c'est les Arènes Jeunesse. Les Arènes, ils ont notamment publié les livres de Baptiste Beaulieu. Voilà. Et les lignes de Céline Alvarez aussi.
Oui, voilà. Aussi, oui.
Allez, il est l'heure. C'est le vrac de Véro.
Véro en vrac.
Véro en vrac ou le vrac de Véro.
Alors, Ourson et Pinson, c'est le deuxième. Hein. C'est le deuxième qui est arrivé après le pique-nique et autres histoires. Voici les étoiles et autres histoires. C'est Jarvis et on est toujours à l'école des loisirs. Et dans ce petit livre, petit album, avec ses couleurs si douces, ses personnages si attachants, il y a quatre petites histoires tout aussi... drôle et poétique les unes que les autres. C'est je ne sais que choisir. La première, c'est la cuillère. Ils sont fâchés. Ourson et Pinson sont fâchés à propos d'une cuillère, mais ils ne savent plus trop pourquoi. Bon, Ourson a décidé de lancer une petite annonce quand même pour trouver un autre meilleur ami, parce que franchement, Pinson, il ne sait plus pourquoi, mais franchement, Pinson, ça suffit. Hein. Et donc, il va lancer sa petite annonce et en donnant rendez-vous dans le... Ils habitent une forêt superbe et tout, dans le bar de la forêt, voilà. Et il se trouve que c'est Pinson qui reçoit la petite annonce et qui, lui, a la même idée en disant « Moi, je veux changer de... » BB's friend, c'est ça ? Je sais pas comment on dit BBF.
Non, BFF.
BBF.
Best friend forever.
Voilà, c'est ça. Je veux changer. Voilà. Et moi aussi. Donc je réponds à ces petites annonces et ils se retrouvent un petit peu bêtes tous les deux, pas à la même table dans le bar. Et puis ils se rapprochent et ils s'aperçoivent qu'ils s'aiment énormément, quoi. Quand même, et que c'est quand même eux les meilleurs amis du monde, quoi.
C'est un peu l'histoire de cette série de façon. C'est toujours.
Mais c'est toujours ça, mais c'est il y a petite pointe de philosophie, je trouve, d'absurdité. C'est, je veux pas dire dérangeant, c'est pas ça, mais ça vous emporte ailleurs, quoi. C'est une histoire, c'est le quiproquo aussi, beaucoup de quiproquo. À un moment, donc c'est Ourson demande à Pinson de l'attendre. Il s'est assis sur un rocher. Donc Pinson, sauf que le rocher c'est une tortue, donc Pinson il bouge pas pendant que la tortue elle fait le tour du monde, quoi. Et il en est malade parce qu'Ourson lui a dit de ne pas bouger. Et il y a un petit côté philosophique quand même. Il y a plein de choses.
Côté décalé tout le temps.
Ouais, ça, j'adore. C'est beau, c'est drôle et c'est profond. Donc la poésie est présente du début à la fin.
Et c'est publié par l'École des loisirs.
L'École des loisirs de Jarvis. Ça faisait un moment que je n'avais pas vu Jarvis. Bon.
Bah, le Ourson et Pinson, tome.
Bah, tome 2. j'ai ça à présenter maintenant. Oh là là. Oh, je suis toute émue. Toujours mon amour reste, de Buffy Sainte-Marie et Julie Flett, chez La Pastèque. La Pastèque, nous sommes de l'autre côté de l'Atlantique, autour de Montréal. Assise près d'un barrage de castors, j'ai regardé l'hiver. La glace craquelait sous mes pieds. À présent, le brouillard inonde la vallée que les oies ont quittée. Je les ai regardées s'envoler sous la lune et mon amour, lui, est resté. Mon amour est resté. Une fois, j'ai vu les fleurs d'été couvrir les champs de lumière. J'ai regardé courir l'été des montagnes aux rivières. À présent, la neige tapisse l'aube et les champs sont maquillés de blanc. Le matin déploie ses ailes en frissonnant, mais mon amour, lui, est resté. Mon amour est resté. C'est splendide. C'est que le début. C'est une traduction d'une chanson de Buffy Sainte-Marie qui est CRI. J'ai appris qu'il y avait des CRI. C-R-I. C'est un peuple... que je dise pas de bêtises, je vais dire algonquin, je crois, quelque chose comme ça, enfin d'autochtones d'Amérique du Nord, Canada, comme les autres étaient. Elle parle de sa chanson et elle parle de sa réserve et de la nature qui l'entoure. C'est une ode à cette nature. Et elle en a fait une chanson dans les années, je crois que je ne dis pas de bêtises, mais je crois que c'est dans les années 70-80. Et donc, voilà, cet éditeur a décidé de traduire en plus cette chanson, donc parce que la chanson est en anglais, de traduire cette chanson. La traduction est sublime, mais vraiment sublime. Et puis quand on connaît l'histoire de cette femme, c'est très très fort. C'est envoûtant, les illustrations sont vraiment à la hauteur du texte. On s'immerge dans la nature et dans cet amour qu'on peut avoir pour un lieu, c'est magnifique.
Je le pique, ça me donne trop envie. Mais en même temps, c'est le symbole des livres qui sont hyper bien faits quand des livres qui parlent vraiment d'un endroit précis qu'on ne connaît pas, en fait. Hein.
Oui, non.
Et c'est vrai que là, La Pastèque publie...
En même temps, c'est universel. Hein.
Voilà, La Pastèque publie un livre canadien, en fait, oui. Plutôt à la base et pour le public canadien.
Raconte un petit peu l'histoire de la chanson à la fin.
De le voir, d'être touché comme ça, ça veut dire qu'effectivement, on touche à des histoires universelles.
Oui, j'ai été écouter aussi la chanson, ça vous pouvez le faire, qui est très belle. Mais le texte français est magnifique. Je le trouve vraiment très beau. Finir, mon vrac,
oui.
J'enchaîne comme une chaussette orpheline. J'ai hésité quand même, parce que j'étais tellement à la fin, de Roxane Lumeray. Après, j'ai été revoir ce qu'elle faisait. J'adore.
On change d'ambiance.
La Partie, on est chez La Partie, notre aussi maison d'édition adorée, comme plein d'autres adorées. Voici un album, mais très 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 bizarre, hein, vraiment bizarre. Hein. Une histoire de lapin qui perd sa lapine dont il était éperdument amoureux. Il dépose une petite annonce, lui aussi, tiens, dans le journal pour trouver une lapine en tout point pareille à sa lapine bien-aimée. Défile alors une multitude de lapines, maigres, volatiles, vieilles, grosses, petites, tout y passe. Aucune ne correspond à ce qu'il souhaite. Il les enferme les unes après les autres à la cave. Allez, oust ! Le lapin est désespéré et les lapines en furie, hein, je vous laisse imaginer, tentent le tout pour le tout dans une évasion rocambolesque. Je vous dis pas la fin, elle est très jolie. On parle ici d'un univers complètement déjanté, fascinant. Il est fascinant, on est fasciné. Je pense d'abord par les couleurs et les formes de ces lapins qui sont... j'ai vu que Télérama avait parlé de rose bubblegum. Je leur ai piqué le truc parce que c'est exactement ça. On nage dans le bubblegum totalement, avec du bleu profond à côté aussi. Les couleurs sont extraordinaires. Une histoire d'amour improbable et complètement délirante. Et on est bien. Moi, j'étais bien dans cet univers. Je riais beaucoup. On se laisse porter par ces formes rondes et sensuelles en même temps. Il y a beaucoup de sensualité. Ça paraît pas comme ça, mais il y a beaucoup de sensualité. Et toujours ces couleurs hypnotisantes. Voilà.
Merci Véro, vous avez donné très envie. Oh là, mais le temps passe et il est déjà l'heure du coup de cœur.
Oh yeah. Coup de cœur.
c'est le temps des coups de cœur.
Et aujourd'hui, le coup de cœur s'appelle « Trois cailloux ». C'est un livre d'Olivier Talec, le dernier livre d'Olivier Talec, publié aux éditions Pastel. Tout là-haut vivent trois cailloux. Ils ont toujours été là, posés au sommet de la montagne. Chaque matin, le vent les fait frissonner. Ils admirent les cimes des montagnes, comptent les moutons dans la vallée et regardent les plantes aromatiques pousser. Ici, ils vivent une belle vie de cailloux. Et tous les jours, ils attendent le passage du grand choucasse. Si on l'aperçoit, c'est qu'il va pleuvoir à coup sûr. Ce matin, il a fendu le ciel en criant et très vite, le paysage a disparu. Tout est devenu noir comme du goudron. Les premières gouttes de pluie ont commencé à tomber et le tonnerre a grondé. C'est dans un grand boum qu'un éclair a fracassé la montagne. Alors ils sautent, roulent et rebondissent. C'est ainsi que l'orage a chassé les trois cailloux. Ils atterrissent un peu plus bas, au milieu d'un tas de branches. Rien de cassé, même pas une petite fente. Tiens, d'ici aussi on peut observer les cimes des montagnes. On voit même l'orage s'éloigner. On ne sent plus le vent, mais on peut encore compter les moutons dans la vallée ou regarder les plantes aromatiques pousser. Ici, c'est presque comme là-haut. Mais ils ont à peine le temps d'en profiter. Le grand choucasse en colère les déloge à coups de bec. Et kiak, kiak, kiak. Alors, dans la panique, ils se cognent, ricochent et tombent tête en haut, tête en bas. C'est ainsi que le grand choucasse a chassé les trois cailloux. Un tapis de mousse et d'herbe amortit leur chute. Blottis les uns contre les autres, ils regardent autour d'eux. Le choucasse a disparu. Ici, il n'y a plus de plantes aromatiques. Mais on voit encore les cimes des montagnes et on peut toujours compter les moutons dans la vallée. Ici, ça ressemble encore un peu à là-haut. Ils laissent passer une journée, puis deux, et enfin une semaine. Ils s'installent et commencent une nouvelle vie avec leurs habitudes de cailloux. Admirer à nouveau le ciel, regarder les nuages faire la course et respirer le grand air des montagnes. Mais dès le lendemain matin, dans un drôle de le sol se met à trembler. C'est la taupe qui sort de terre. Elle gratte, pousse les racines et les pierres. Elle ne les voit pas. D'ailleurs, comme toutes les taupes, elle ne voit personne. Ils glissent, dégringolent à nouveau la pente et cette fois terminent leur course dans une prairie. C'est ainsi que la taupe a chassé les trois cailloux. Ils se comptent. 1, 2, 3. Ils sont tous là, au pied de la montagne. Ici, il n'y a ni vent, ni plantes aromatiques, mais des odeurs inconnues, des bourdonnements d'abeilles et des moutons tout blancs. Quel drôle d'endroit. Ça ne ressemble plus du tout à là-haut. Peut-être pourrait-il y vivre une belle vie de cailloux. Mais après seulement une nuit de repos, un lièvre arrogant qui passait par là emporte les trois cailloux jusqu'à la rivière. Il les pose pour traverser sans se mouiller. Ploc, ploc, ploc. C'est ainsi que le lièvre a chassé les trois cailloux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est le chien de berger fatigué qui, à grands coups de se désaltère à la rivière. Cette fois, c'est d'un simple coup de langue que le chien a chassé les trois cailloux. Très vite, l'eau les emporte. Les trois cailloux, qui ne sont pas forts comme des rochers, ne résistent pas à la puissance du courant. Alors ils se laissent emporter. La rivière les emmène jusqu'au fleuve. Et le fleuve coule jusqu'à la mer, dans un long flou. Et c'est ainsi que l'eau a chassé les trois cailloux. Là-haut, il y avait le vent, les montagnes et les plantes aromatiques. Ici, il y a la douceur du sable, la danse des algues, et on peut compter les poissons. Tout en bas vivent désormais trois cailloux. Voilà, c'était le livre « Trois cailloux » d'Olivier Talec. Pour s'en remettre, on va écouter un petit peu de musique, retourner en 2005. 5. Écoutez Montgomery.
C'était bien un moment d'être apathie. Après tous ces mélanges de colorants, j'ai perdu mon sang-froid sous antibiotiques. Je suis nostalgique du temps des mutants. Et même si vous me manquez, et même si vous me manquez, je me sens.
Plaisir de réécouter ce joyeux bazar de Montgomery. Montgomery, c'était un groupe vraiment que j'adorais, moi, qui était à la fois Lavallois, et puis après, ils sont tous partis s'installer à Rennes. Et c'est un groupe qu'on avait découvert sous le nom de Sold Out avant qu'ils deviennent Montgomery. Et ils ont fait deux albums qui sont absolument géniaux, complètement fous, voilà, dont est tiré Jérémy, qui était un morceau du premier album. Allez. Je sens que Véro, vous avez envie de nous faire flipper un peu.
Flipper, c'est pas...
Non.
Non, c'est justement, on met des mots pour expliquer.
D'accord, allez-y.
IA, comment les machines pourraient nous remplacer. Donc l'intelligence artificielle de Mathieu Dugal et de Owen Davet chez La Pastèque. Un documentaire. Un documentaire comme on les fait superbement maintenant, avec beaucoup, beaucoup d'illustrations. Donc il y a près de 40 000 ans, nos ancêtres créaient déjà des figurines. Il y a 2000 ans, c'est ce que j'ai appris dedans, on trouve les premières traces de notre volonté de les animer. Une colombe en bois, il y a 2000 ans, qui volait grâce à un mécanisme actionné par la vapeur. Donc on remonte, ce documentaire va remonter aux prémices de l'intelligence artificielle, d'une certaine façon, en partant des robots, enfin de personnes animées, on va dire, d'objets animés. Et donc, les auteurs vont nous présenter des automates ou encore des robots qui ont émaillé l'histoire. Ces portraits sont agrémentés de petits textes très clairs, agréables à lire, qui font entrer subtilement le lecteur dans le domaine, j'en fais partie, le domaine complexe de l'intelligence artificielle. Et on y rentre bien. Il y a des choses qu'on imprime bien. Vous avez le... Non, pas grave.
On devait rire là, non?
Non, pas rire, mais bon, voilà. On découvre les origines des ordinateurs et leurs concepteurs, et on parle aussi de, ça y est, j'ai perdu, Ada Lovelace, qui a été la première en 1815, considérée comme la première programmeuse de l'histoire quand même, avant des hommes, on va dire. Donc ça, ils ne l'ont pas oublié, ils l'ont bien mis aussi dedans. Et si certains, dans certains domaines, les IA nous ont dépassés depuis longtemps, pour ce qui est des tâches, et ça ils expliquent bien, qui nous paraissent, c'est même, je dirais, pas rassurant, mais il y a encore du boulot pour qu'ils nous ressemblent vraiment et prennent notre place, puisque des tâches très simples, ils ne sont pas capables de faire, marcher en évitant des crottes de chien, ça ils ne savent pas faire.
Très utile.
Tout en parlant avec un ami. Attention, là il y a trop.
Ah oui.
Voilà. Et c'est pas prêt d'arriver. Donc, faire cuire des pâtes et les sortir de l'eau à temps est beaucoup plus difficile pour une IA que de gérer 80 milliards de milliards de milliards de possibilités du jeu de Go. Voilà. Donc, l'illustrateur...
Tant qu'on fera des trucs basiques, ça ira encore, c'est ça ?
Voilà, je pense qu'il y a de la marge encore. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se méfier, il faut rester prudent, il faut s'informer énormément, je crois. Mais Owen Davey, en plus, est un illustrateur, donc a vraiment mis en couleur, c'est aussi beaucoup de couleurs, là, des couleurs un peu des années 70, je dirais, avec des formes des années 70, mais c'est vraiment intéressant. C'est pour dédramatiser le sujet, on va dire, comme ça, sans le simplifier du tout, et sans le dédiaboliser non plus. Donc très efficace et très agréable.
Merci beaucoup. Donc, ça s'appelle IA, comment les machines pourraient nous remplacer, de Mathieu Dugas. Léo Van Davey, c'est publié.
La Pastèque,
à nouveau, nos amis canadiens.
Voilà.
Bonjour, nos amis canadiens. On passe au petit roman. Lola, vous aviez un petit coup de cœur pour les plus jeunes.
Oui, je vais vous parler aujourd'hui de Nona et Martha, qui est un petit livre publié dans la collection Mouche à l'École des loisirs. Et donc c'est un livre de Anne Corté et Thomas Bass. Donc ici c'est l'histoire d'une jeune fille qui va passer ses vacances chez sa grand-mère et qui va apprendre à découvrir le monde qui l'entoure en s'intéressant par exemple aux fourmis. Elle va aussi se passionner pour le monde de la rivière qui est proche de chez sa grand-mère, qu'elle aime aller voir en fait chaque fois qu'elle vient chez donc, sa grand-mère. Et donc elle va passer du temps avec elle et apprendre un autre rythme de vie finalement. Donc ici, il y a une question d'intergénérationnalité qui est vraiment intéressante à observer et à découvrir. Et ces nouvelles rencontres montrent une certaine curiosité du monde qui l'entoure. Et ça apporte aussi une légèreté, une sensation de joie pendant la lecture de ce livre. Et donc on retrouve aussi les illustrations qui sont vraiment, vraiment colorées et vraiment claires, qui s'accordent vraiment très très bien avec l'histoire qui est toute douce. Et donc c'est vraiment un livre qui donne envie de vacances.
C'est clair.
De se mettre au vert.
C'est ça.
Bah, on y est bientôt, on a bientôt fini la mission, on part en vacances bientôt. Donc merci Lola pour ce petit conseil, ce grand conseil
pour ce petit roman.
Ce grand roman, il n'y a pas de raison.
Oui, c'est vrai.
Ce roman finalement pour les plus jeunes, mais par contre ça peut être un grand roman pour les plus
d'accord,
jeunes.
D'accord.
Allez, on passe au grand roman pour les grands maintenant, pour les grands ados. Et là, moi je veux absolument vous parler de Girls Bazaar de Ruchira Gupta. C'est publié chez Slalom, ça vient de sortir la semaine dernière. Et c'est un livre exceptionnel que vous devez tous lire. Je ne dis jamais vous devez, mais là, vous devez quand même. Girls Bazaar, ça nous raconte l'histoire d'une jeune femme, Hera, qui vit dans les bidonvilles, dans une grande ville du nord de l'Inde. Et malheureusement, ses parents sont très pauvres. Ils n'ont quasiment pas de sous. Ils dorment dans une espèce de petite cahute. Et son père, qui est pas quelqu'un de fiable, et à deux doigts de la vendre en fait au proxénète du bidonville. Et l'histoire de ce roman, l'histoire de Girls Bazaar, ça va nous raconter l'histoire de cette jeune femme qui va rencontrer heureusement une femme formidable, Rinidi, qui va l'accueillir au sein d'un foyer. Et cette femme va la protéger à la fois de son père mais aussi de ses voisins pour qu'elle ne se prostitue pas. Et cette histoire qui pourrait paraître très dure, et elle l'est, est très positive puisque en fait la fin va être réellement positive, mais surtout elle raconte des histoires vraies qu'a vécu Ruchira Gupta. Ruchira Gupta, c'est une grande femme, une militante, une activiste, à la base journaliste, et puis qui a créé une ONG pour justement démanteler ces réseaux de prostitution en Inde, mais ailleurs. Et ce roman, elle a voulu en fait prendre un peu toutes les histoires qu'elle a vues, qu'elle a vécues, et le remettre en fait dans un roman pour les ados, justement pour les alerter sur ces sujets-là. C'est remarquable, le texte est très très beau, on pleure, on est heureux, on est avec les personnages, c'est plein d'empathie, c'est extrêmement bien écrit aussi, ça se lit très très bien, c'est vraiment une lecture pour tout le monde à partir de 14 ans. Vraiment, je vous le conseille, ce Girls Bazar, c'est un gros coup de cœur et c'est publié chez Slalom. Mmh. Et comme le temps presse, on enchaîne et on reste chez Slalom, mais on se met un petit fond de musique pour se mettre dans l'ambiance tout de suite. Et ouais, il fallait bien ça. Il fallait les Siouxsies and the Banshees. Alors pour les mélomanes, en fait, cette musique-là, elle a été créée pour le film Marie-Antoinette de Sofia Coppola, qui nous donne un peu le ton de ce roman, Lola,
oui,
qui est absolument génial.
Oui, oui. Donc c'est Noblesse Oblige, de Maïwenn Alix, donc publié chez Slalom. Donc dans cette histoire, on imagine en fait ce qui aurait pu se passer si en 1789, la révolution n'avait pas abouti. Donc on suit ici Gabrielle, dont le père s'est fait arrêter pour rébellion contre le roi actuel, qui est donc Louis XXI. Et pour se venger, elle va intégrer la fameuse télé-réalité Noblesse Oblige, pour tenter de démontrer à la population que le roi et sa cour sont finalement loin d'être exempts de tout reproche. Et donc ce qu'elle va découvrir est finalement beaucoup plus terrible que ce qu'elle aurait pu imaginer. Donc j'ai pas tout à fait fini de le lire encore, mais l'histoire m'a fait beaucoup penser à un cours que je suis en ce moment dans la formation d'apprenti libraire de LUCO. C'est un cours sur l'histoire de la littérature, et en ce moment on a vu le 18e siècle, donc après Louis XIV, et en particulier le mouvement littéraire des Lumières qui est, je trouve, utilisé en fait dans ce livre. Donc le mouvement des Lumières, c'est un mouvement qui incite à réfléchir par soi-même et qui nous dit en fait de ne pas suivre aveuglément une idée. Donc à l'époque, ça dit de ne pas suivre aveuglément les idées véhiculées par la religion. Et dans ce livre ici, ça dit de ne pas suivre aveuglément les idées véhiculées par la monarchie, pour le coup. Et donc Maïwenn Alix montre aussi, avec Noblesse Oblige, que la télé-réalité a un réel impact en fait sur la population. Donc c'est un livre qui invite ce débat finalement. Et donc moi j'ai apprécié vraiment ma lecture, enfin j'apprécie ma lecture. Je trouve ça vraiment très intéressant d'aborder le monde d'aujourd'hui avec les idées et l'ambiance de l'époque. Et en plus c'est vraiment fluide, les éléments s'enchaînent vraiment naturellement et la lecture est vraiment très très agréable.
Un roman choc qui a déjà trouvé un fort public. Oui. Je sais que ça a été un très très beau démarrage pour ce roman-là.
Oui, on en entend beaucoup parler.
Et effectivement, des livres comme ça qui... la couverture pourrait un peu tromper. On n'est pas du tout dans un petit truc de princesse. Oui. Il y a un côté un peu plus bourrin. Et c'est vraiment très très bien. Maïwenn Alix, elle a déjà fait des romans plutôt de science-fiction. Et celui-ci confirme vraiment son talent d'autrice.
Oui.
Voilà. Donc, merci beaucoup, Lola.
Merci.
L'émission s'achève déjà. Ça a été trop vite. Merci beaucoup, Véro, pour cette émission.
Merci.
Je finis rapidement juste avec une petite note de bande dessinée, quand même.
Oui.
Juste vous signaler que Lewis Trondheim est de retour en bande dessinée jeunesse. Lewis Trondheim, c'est quand même un des grands noms de la bande dessinée qui a écrit plus de, 150 BD. Peut-être c'est l'auteur de la série Donjon, notamment. Il revient avec une série qui s'appelle Aurore et l'Orc. C'est absolument génial. Il y a deux tomes qui sont sortis. C'est publié chez Albin Michel. En gros, c'est Aurore, une petite fille de nous maintenant, qui arrive à l'école un jour et elle voit débarquer par la porte un orque. Un vrai orque.
Non, mais pas le poisson.
Mais non.
C'est un mammifère.
Mais non, l'orque avec sa massue qui défonce de l'elfe. Voilà.
D'accord.
Et justement, pour sauver sa peau, il a trouvé une espèce de magie, c'est pas trop quoi. Quand il passe la porte d'un château, donc là de ce monde en fait, il arrive dans l'école d'Aurore et donc il est protégé un petit peu. Sauf qu'évidemment, entre un orque et une jeune fille de maintenant,
c'est une histoire d'amour impossible.
Non. Alors, il n'y a pas l'histoire d'amour du tout. Mais ils ne se comprennent pas tout à fait. Ils sont pas trop. L'autre, en fait, il veut dégommer de l'elfe et bouffer tout ce qui passe quand même.
C'est un orque.
C'est ça. Donc, il bouffe des humains aussi, par exemple.
Aussi.
Donc, là, l'école, c'est un peu un grand sandwich pour lui, si vous voulez. Voilà. Donc, il va falloir
un bol de croquettes. Voilà.
Et franchement, le premier tome, donc, c'est cette histoire-là. Et le deuxième tome, c'est Aurore qui, elle-même, va passer dans le monde des orques et des elfes. Et c'est très très drôle.
D'accord.
Aussi. Donc je n'en dis pas plus, mais franchement, allez voir, c'est vraiment génial. C'est publié chez Alma Michel, il y a 2 tomes qui sont déjà parus et ça devrait bien plaire. Et bien voilà, cette fois-ci, on a tout dit. Merci beaucoup Lola.
Merci Simon.
Merci Véro.
Merci Monsieur Simon.
Merci Philippe qui est comme d'habitude à la régie, au son, tout le tralala. Merci à l'autre radio de nous accueillir et nous on vous dit de très très bonnes lectures et on vous dit à la prochaine émission.
Les serpents se découvrent. Les marins loin des ports s'avancent sur les tours. Il n'y a plus de mots, les mots c'est pour les belles. Les souvenirs à bord s'envolent avec leurs ailes. Si le hasard veut prendre la mer, vos yeux d'amour brûleront sur terre, et même vos amis à bras ouverts se souviendront des jours amers. Se renverse, le silence se retourne. Les fous parlent très fort, oubliant les détours. Il n'y a plus de mots, les mots c'est pour les belles. Les souvenirs à tort se perdent sans appel. Se souviendront.